Et mon message aujourd'hui s'intitule « Libre de toute peur ». Libre de toute peur. Et on peut l'associer à notre série actuelle « Comment va ton cœur ?» Et c'est donc « Comment va ton cœur ?» numéro 10. Et cela fait plusieurs semaines que j'avais à cœur ce message sur la peur, justement dans notre série. Et à plusieurs fois, on l'a un petit peu laissé de côté, on est passé à autre chose. Et cette semaine, c'est vraiment remonté en moi comme une évidence. Et il fait pleinement partie de la série, ça c'est sûr, mais il a aussi une actualité criante par rapport à tous les événements que vit notre pays de France et qui d'ailleurs secoue la scène internationale maintenant et qui va, disons-le malheureusement, mais s'étendre de plus en plus et prendre une ampleur bien au-delà. Et devant ce genre d'événements et plus généralement devant diverses situations de nos vies, les circonstances, des événements incontrôlables, beaucoup de gens sont pris par la peur. Et à travers ce message, je voudrais vous montrer que vous pouvez et comment vous pouvez être et vivre libre de toute peur. Libre de toute peur. Vous pouvez être libre de toute peur. Alléluia. En mon premier point, la peur, j'allais dire définition et conséquence. La peur, définition et conséquence. La peur, c'est une définition simplement du dictionnaire. La peur est une émotion qui est ressenti généralement en présence ou dans la perspective d'un danger ou d'une menace. Donc la peur, c'est une émotion. Et on voit qu'elle est ressentie en présence ou dans la perspective de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de dangereux, une menace, et donc ça produit une émotion, la peur. Pardon, donc ça c'est la définition générale de la peur. Mais on voit que c'est juste une émotion produite par quelque chose autour de nous. Ça, c'est la définition générale. Et moi, je voudrais vous donner une définition qui est aussi une révélation et qui doit vous libérer et qui va vous libérer. La peur, je pourrais me lancer ici dans une étude compliquée, vous pourriez avoir peur de ça, mais rassurez-vous, c'est très simple. Et vous savez, avec tout ce que nous vivons ces temps-ci et cette conscience grandissante que les temps sont courts, je dis, allons à l'essentiel, soyons pratiques, soyons efficaces. Donc, on pourrait tourner dans beaucoup de choses, mais je vais juste être rapide et efficace et vous dire que la peur, ce n'est ni plus ni moins qu'une foi mal orientée. La peur, c'est une foi mal orientée. La peur, on peut dire sinon, c'est comme une forme détournée de la foi. Donc, la peur n'est pas autre chose que de la foi, mais une foi mal orientée. La peur est une foi mal orientée. Finalement, quand vous avez peur, vous avez plus confiance dans ce qui pourrait vous arriver, dans ce qui pourrait vous nuire, dans ce qui pourrait vous causer du mal, qu'en ce qui vous sécurise. Donc, la peur est une forme de foi mal orientée. Quand vous avez peur, vous avez foi dans le danger. N'est-ce pas ? C'est simple, en fait, hein. Donc, ce n'est pas tellement une question de savoir comment combattre la peur. En fait, la peur, c'est de la foi. Maintenant, la question, c'est une foi qui est mal orientée. Et donc, cette peur, eh bien, vous bloque, vous paralyse, vous empêche d'avancer. Vous avez plus confiance en ce qui peut vous faire mal, vous nuire, qu'en votre sécurité. Et permettez-moi d'aller au bout de l'idée et de dire que finalement, la peur, c'est une forme mal orientée de foi qui fait que pendant un moment, nous avons plus confiance en ce qui nous menace qu'en Dieu lui-même qui nous sécurise. L'un des effets principaux de la peur, je ne vais pas être trop long ici, donc je vais rapidement, mais on le voit à travers Matthieu 25, 14 à 25, cette parabole des talents. Et en fait, la peur a pour capacité particulière de vous paralyser et d'engendrer la stérilité. Quand vous avez peur, vous êtes paralysé. Vous n'avancez pas comme vous devriez. Et d'ailleurs, souvent, ça se manifeste même physiquement. Quand quelqu'un s'effraie, quand il a peur, souvent, il ne peut même plus bouger. Et la peur va provoquer la stérilité, c'est-à-dire que vous ne produisez rien. Quelqu'un qui a peur n'entreprend pas parce qu'il a peur. Quelqu'un qui a peur ne dit pas le mot qu'il devrait dire, qui pourrait être déclencheur à cause de cette peur. Ça produit une stérilité. Quelqu'un qui a peur n'agit pas. Donc la peur engendre la stérilité. Elle vous paralyse. La peur peut provoquer ce qu'on appelle la panique, des réactions anormales, exagérées, une précipitation, un comportement inhabituel. Et on entend ces témoignages de membres des forces de sécurité comme les pompiers, etc., que ce qui crée le plus de victimes souvent dans un événement n'est pas forcément l'événement lui-même, que ce soit un incendie, que ce soit un accident, mais c'est souvent la panique, la peur qui est provoquée chez les gens et qui vont avoir des réactions bizarres. Des gens qui vont sauter d'un étage élevé par peur, alors que s'ils étaient restés là, ils auraient peut-être encore respiré, on aurait pu les chercher. Des gens qui, peut-être, vont courir au risque d'écraser d'autres personnes. Ça s'est vu dans des mouvements de foule à cause de la peur. Donc la peur nous fait agir dans la précipitation, nous fait prendre des décisions rapides et du coup erronées. La peur précipite, la peur conduit à l'erreur, la peur amène des dispositions incontrôlées. En deuxième point, l'origine de la peur. D'où ça vient cette peur finalement? Puisque la peur c'est une forme de foi qui est mal orientée, pourquoi notre foi est-elle mal orientée? Pourquoi cette peur existe-t-elle? D'où vient-elle? Comment en est-il advenu ainsi? Genèse chapitre 3, les versets 7 à 10, nous mentionne la première apparition de la peur dans l'Écriture et du coup dans l'histoire de l'humanité, parce que nous croyons que la Bible est vraie, qu'elle est la parole de Dieu, et que l'histoire de l'humanité a commencé avec Adam et Ève que Dieu créa, et que leur histoire, eh bien, c'est le tout début de notre histoire. Genèse 3, verset 7, lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont mangé ce fruit interdit, il est dit que les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils se firent des ceintures. Ils entendirent alors la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu lui dit « Qui t'a appris que tu es nu ? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » Et l'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel dit à la femme, merci, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et puis il y a le jugement qui va être prononcé. En fait, la peur est la conséquence de la chute. La peur vient du péché. La peur est la conséquence directe du péché, de la chute. Donc la peur n'est pas une émotion, un sentiment créé et prévu par Dieu dans le fonctionnement normal de l'être humain. Mais la peur est une conséquence de cette chute, une perversion de notre être à cause du péché, à cause du mensonge, à cause de la nature de l'ennemi qui est venu infiltrer l'humanité. Ce qui m'amène à mon troisième point et ce qui nous amène à la solution de Dieu en Jésus-Christ, libre de toute peur. Comment être libre de toute peur? Premièrement, naître de nouveau. Naître de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau? Ça veut dire que si vous voulez être libre de toute peur, eh bien vous avez besoin de devenir une nouvelle personne. Puisque la peur est la conséquence du péché, et que le péché est entré dans toute l'humanité, nous dit l'Épître aux Romains, du moment que vous êtes humain, automatiquement vous êtes pécheur. Donc vous avez la nature du péché, donc vous avez le potentiel d'avoir peur, et la peur a ses droits dans votre vie, parce qu'elle est la conséquence du péché. Et la solution pour le pécheur, c'est de naître de nouveau. Naître de nouveau, Jésus dit dans Jean 3:3, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et il explique à ce moment-là, à ce chef religieux de l'époque, qu'il lui faut recommencer finalement à zéro, c'est-à-dire renoncer, quitter son ancienne vie, son ancienne manière de vivre, recevoir la solution de Dieu en Christ et vivre une vie nouvelle, où désormais ce ne sont plus les conséquences du péché de la chute et la nature humaine et de péché qui agit, mais la nature de Dieu. Naître de nouveau. Romains chapitre 8 verset 2. Romains 8, 2, il est écrit « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Donc, qu'est-ce qui peut vous libérer, vous affranchir de la loi du péché et de la mort? La loi du péché et de la mort, en fait, c'est ce que le péché et la mort amènent avec eux comme droit dans votre vie. Donc, il y a une loi du péché et de la mort. C'est-à-dire quelqu'un qui est sous l'emprise du péché et de la mort, il y a un ensemble de lois qui s'appliquent en lui. et la peur en fait partie. Et certains accès aussi qui nous détruisent font partie de cette loi. Mais l'Écriture dit ici que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré, délivré de la loi du péché et de la mort. Donc, si je suis et si je veux être délivré du péché, de la mort et de ses conséquences et de tout ce qui fonctionne avec, à savoir la peur qui en fait partie, j'ai besoin de recevoir l'esprit de vie en Jésus-Christ, d'être recréé par lui. L'Écriture nous dit aussi que nous avons été affranchis de la malédiction de la loi à travers l'œuvre de Christ. 2 Pierre 1, verset 4, il est dit que nous sommes rendus participants à la nature de Dieu. Donc ce n'est plus la nature du péché, la nature du monde, c'est la nature de Dieu qui agit dans celui qui est né de nouveau. Colossiens 1, 13 nous dit que sa puissance nous a délivrés des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent la peur ou le fait de s'effrayer sont démultipliés dans le noir, dans les ténèbres. S'il fait noir et qu'un bruit soudain apparaît, ça va produire une réaction, on peut même avoir peur, alors qu'en plein jour, le même bruit attirait à peine notre attention. C'est vrai, vous avez expérimenté ça. Hein. Puis ce qui vous fait peur, d'un coup vous êtes bloqué, vous vous demandez qu'est-ce que ça peut être, et parfois je vous mettais à la lumière, puis la peur dit pas qu'il se passe, vous dites, bah oui, c'était juste peut-être quelque chose qui est tombé à terre, ou un interrupteur qui s'est déclenché, ou quoi que ce soit. Mais Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous amener dans le royaume de sa vie, de sa gloire. 1 Pierre 2, verset 9, nous dit qu'il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Donc alors que nous étions dans le noir constamment, vous savez, quelqu'un qui est sous la loi du péché, qui n'est pas né de nouveau, il est constamment dans les ténèbres. Il a beau faire jour, vous pouvez allumer tous les projecteurs que vous voulez, comme on le fait ici, mais vous êtes quand même dans les ténèbres. Et ce qui fait que la peur peut opérer beaucoup plus facilement. Mais quand vous êtes en Christ, vous avez été transporté à son admirable lumière. Et maintenant, vous êtes dans la lumière, vous êtes éclairé. Donc, comment naître de nouveau ? Eh bien, cela consiste à se repentir, c'est-à-dire reconnaître notre vraie nature. Je suis pécheur, je suis perdu, sans Dieu. Reconnaître que par moi-même, je ne suis pas capable de mener une vie satisfaisante, conforme à l'Écriture. Par moi-même, je réalise bien que beaucoup de choses me surpassent, beaucoup de choses triomphent de moi. Vous savez, beaucoup de gens sont esclaves de la peur, de la maladie parfois, de tant d'autres choses, de certaines dépendances dont ils n'arrivent pas à triompher. La solution, naissez de nouveau. L'âme pécheur, l'homme non régénéré ne peut pas triompher de tout cela, il en sera esclave. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu, dit l'Écriture, pour rendre libres les opprimés, pour délivrer les captifs, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, donner une bonne nouvelle aux pauvres, pour nous racheter. Donc pour naître de nouveau, il nous faut réaliser notre situation et accepter, je disais, la solution de Dieu en Christ. Romains chapitre 10 nous dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on est sauvé, que l'on est délivré. Croire que Christ est mort, qu'il est ressuscité et qu'il nous donne cette vie nouvelle, qu'il nous y invite. Cela revient à renoncer à notre ancienne manière de vivre, à confesser Christ comme notre Seigneur et Sauveur, comme notre solution, et à nous engager dans une marche à sa suite. C'est un changement de direction radical. Si vous voulez être libre de toute peur et que vous n'êtes pas né de nouveau, vous devez naître de nouveau. Pour mettre fin d'une manière ferme et définitive à la loi du péché et de la mort en vous. Mettre fin de manière radicale à la puissance des ténèbres qui a encore des droits sur vous. Vous savez, je n'aime pas avoir l'air de jouer à celui qui fait peur pour convaincre les gens, mais il n'y a pas beaucoup d'options. Soit vous êtes dans les ténèbres, soit vous êtes dans la lumière. Et je peux vous dire que plus les temps avancent, et plus la différence sera flagrante entre ceux qui sont des ténèbres et ceux qui sont de la lumière. Les temps viennent où il sera de plus en plus difficile de vivre sur cette terre. Et si vous êtes dans les ténèbres, vous verrez que ça deviendra encore bien plus difficile. Et les temps viennent où les ténèbres vont s'épaissir. De la même façon que le temps glorieux vient pour ceux qui sont dans la lumière, de rejoindre de façon réelle et concrète la lumière. L'Écriture nous dit dans Colossiens, chapitre 3, que lorsque Christ paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. L'Écriture nous dit dans Matthieu 24 et aussi dans l'Épître aux Corinthiens que Christ paraîtra et que ceux qui sont avec lui dans une grande lumière s'élèveront vers lui et seront enlevés avec lui. C'est l'espérance que nous avons. Mais si nous sommes encore dans les ténèbres, les choses continueront de triompher de vous et vous n'avez pas d'option, vous n'avez pas de force, vous n'avez pas de puissance, vous n'avez pas de capacité de faire quoi que ce soit. Parce que ces choses-là sont plus fortes, plus grandes que vous et vous ne pouvez pas en triompher. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu qui nous aime, Dieu qui a tant aimé le monde, a donné son Fils unique. Il a donné son Fils. Dieu, qui a tant aimé le monde, est venu lui-même en chair parmi les hommes prendre ses limites, ses blocages, ses impossibilités, cette nature qui nous bloquait, être condamné à notre place pour que nous puissions recevoir sa nature divine, sa lumière, sa vie, sa liberté, sa puissance, sa capacité et comme nous l'avons expérimenté il y a quelques instants, son courage, son audace, sa puissance. Et ô combien l'Église en aura besoin. L'Écriture dit, nous prions pour que votre foi ne se relâche pas, qu'elle ne faiblisse pas dans les derniers jours. Vous savez, le christianisme à l'eau de rose, la foi de complaisance deviendra très rapidement insupportable et insoutenable. Certains peuvent encore jouer à ce jeu et s'en sortir, mais le moment vient où vous aurez besoin d'une foi ferme. Vous aurez besoin, et je dis vous avez besoin dès maintenant, d'une foi ferme. Vous avez besoin d'une espérance absolue. Vous avez besoin de puiser votre force, votre capacité, jour après jour, instant après instant, pour tenir ferme jusqu'au bout. L'Écriture dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il n'est pas question du salut de notre âme. Quand vous avez confessé vos péchés, que vous êtes né de nouveau, vous avez reçu Christ, votre âme est sauvée, il n'y a pas de problème. Mais il ne suffit pas juste que votre âme soit sauvée, bien-aimée, pour vivre ce puissant moment qu'est l'enlèvement et être avec Christ. Pour être avec Christ, pour vivre avec lui, vous avez besoin de marcher conformément. Nous l'avons vu, il est temps de paraître. Et quand il est dit « celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé », ce n'est pas que nous ne serions pas sauvés tout de suite. À l'instant même où vous renoncez à votre ancienne manière de vivre, que vous recevez Christ, vous devenez enfant de Dieu, vous êtes sauvé à l'instant même, immédiatement. Vous êtes sauvés, il n'y a pas de problème. Mais il dit, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé, au sens sera délivré, sera enlevé. Nous avons besoin d'une foi ferme jusqu'au bout pour être avec lui, dans sa gloire. Alors me direz-vous, mais oui, mais moi je suis né de nouveau, pourtant j'ai encore peur. Et peut-être même la peur a-t-elle une forte influence dans votre vie. Eh bien, vient mon deuxième point pour être libre de toute peur, si vous êtes né de nouveau. Maintenant, vous avez besoin de revêtir l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau. Romains chapitre 6, versets 6 à 7. Il est écrit, « Sachant que le vieil homme a été crucifié, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, car la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. » Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que notre vieil homme est mort avec Christ. C'est-à-dire que l'ancienne nature, la nature du péché, la nature qui produisait la peur, l'impossibilité, l'impuissance, l'incapacité, est morte avec lui. Mais nous avons besoin de vivre avec lui par notre foi et de nous revêtir de cette nouvelle nature, cette nouvelle personne que nous sommes, pour que le péché soit réduit à l'impuissance. Il est dit, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, oui, Quand nous naissons de nouveau, nous recevons la nature de Dieu. Nous sommes affranchis de la loi du péché et de la mort. Mais nous avons besoin d'être dans une démarche où nous nous revêtons de cet homme nouveau. Éphésiens chapitre 4 nous parle aussi de revêtir l'homme nouveau. Cette nouvelle personne que nous sommes par l'œuvre de Christ. Revêtir l'homme nouveau passe par le fait de renouveler nos pensées et de nourrir notre être des nouvelles capacités qui sont nôtres, des nouvelles réalités qui sont en Christ, non plus ce que nous étions. Peut-être étions-nous, lorsque nous étions pécheurs, faibles, timides, incapables. Peut-être étions-nous très limités. Peut-être étions-nous craintifs. Et lorsque vous naissez de nouveau, physiquement et émotionnellement, vous restez le même. Mais l'Écriture nous engage à nous revêtir de l'homme nouveau. L'Écriture nous engage, Romains, à chapitre 12, verset 2, à être transformés par un renouvellement de notre intelligence. C'est-à-dire apprendre à vivre, à raisonner, à nous voir et à fonctionner comme celui que nous sommes désormais en Christ. Ce qui nous amène, en fait, comment revêtir l'homme nouveau, comment ne plus vivre dans la peur, eh bien, réorienter votre foi. Quand vous avez peur, nous l'avons vu précédemment, c'est que votre foi est mal orientée. Vous avez plus confiance en ce qui pourrait vous nuire qu'en Dieu lui-même. Donc la solution est quoi? Réorienter votre foi. Et j'allais même dire, c'est un exercice que vous pouvez pratiquer. Parce que peut-être dans certaines circonstances, ce n'est peut-être pas une peur qui est destructrice à l'extrême. Vous savez, même les petites peurs, même les petites choses qui nous effraient, même les petites choses qui nous limitent, à petite dose, nous empoisonnent. Donc lorsque vous sentez la peur qui vous limite sur quelque chose, réorientez votre foi. Ne vous focalisez pas encore plus sur cette émotion, ce n'est qu'une émotion. Maintenant, vous savez ce qu'il en est, et vous pouvez toujours la chasser autant que vous voulez, ça ne partira pas, parce que ce n'est pas une puissance, ce n'est pas une force, ce n'est même pas un esprit, même s'il est vrai que certains esprits mauvais vont jouer sur la peur qu'ils vont produire en vous. Mais la peur est une foi mal orientée. Donc face à la peur, réorientez votre foi. Alors, si quelque chose vous fait peur, une démarche à faire, par exemple, eh bien, prenez une parole de Dieu qui parle de votre assurance, qui parle de vos droits, qui parle de vos capacités. Si vous avez peur parce que peut-être il fait nuit et que c'est sûr que le climat actuel n'est pas très rassurant, eh bien, confessez, l'Éternel est mon berger. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Puis permettez, à côté de la vallée de l'ombre de la mort, nos rues bien éclairées, elles sont quand même un peu plus réconfortantes, bien que le danger puisse surgir de nulle part, c'est vrai. Mais confessez et nourrissez votre foi, réorientez votre foi. Non pas en disant, ouh là-bas, il y a un coin noir, est-ce qu'il n'y a pas trois gars qui sont coincés avec de quoi me tuer? Et vous savez, quand bien même quelqu'un serait face à moi pour me tuer, je n'aurais pas peur. Je le confesse, je dois encore y travailler, c'est sûr, mais je n'aurais pas peur, parce que je sais en qui j'ai cru, parce que je sais quel combat je mène. Vous savez, j'ai été frappé aussi par une déclaration de l'une des victimes de ces attentats cette semaine, et qui avait dit il y a quelques années, dans des événements précédents, il avait dit, je ne céderai pas à la peur, parce qu'avoir peur, ce serait les laisser gagner. Et mon idéal, mes idées sont plus grandes que n'importe quelle menace qui peut peser sur moi. Imaginez juste un homme avec une volonté d'homme faire une déclaration pareille et vivre un certain temps avec cette déclaration. Il s'est avéré par la suite qu'il devait quand même sentir que ça chauffait, puisqu'il semblait qu'il s'était armé, etc. Et je ne sais pas ici l'effigie de cette personne, ou même d'un groupement de personnes. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reflète une vérité. Il avait plus foi et confiance en l'idéal qu'il défendait, qu'en la menace qui pesait sur lui, et qui était bien sérieuse. Des gens armés, des gens influents, puissants, qui facilement pouvaient le détruire. Et ça a fini comme ça, malheureusement. Mais il n'avait pas peur. Juste pour un idéal humain. À combien plus forte raison, nous, avec une vision céleste? Bien aimé, d'où l'importance d'être conscient des temps dans lesquels nous vivons. Vous savez, en fait, je suis toujours un peu partagé et j'essaie d'être vigilant. Parce que oui, nous devons dire la vérité. Donc je dois dire, et je le dis, les temps qui viennent ne seront pas plus faciles. Mais je ne veux pas créer la peur chez vous. Et en fait, la difficulté qui vient ne produit même pas de peur chez moi. Elle produit une confiance grandissante. Parce que Dieu a déjà donné la bonne nouvelle, et Dieu nous a donné une espérance. Je sais que des temps difficiles viennent, mais je sais aussi que plus ça chauffe, et plus le jour est proche où je vais m'élever avec lui. Alors finalement, qu'est-ce qui me reste encore tellement à perdre? Et puis, perdre pour perdre, autant mourir dignement. Même certains hommes en ont fait leur devise. À combien plus forte raison, nous, qui sommes porteurs d'une espérance de la vie éternelle, du règne avec Christ, à combien plus forte raison, nous, qui sommes avec le Dieu Tout-Puissant, qui est fort, qui est grand, qui est au-dessus de tout. Devrions-nous faire preuve de cette force, de cette foi et de ne pas céder à la peur? Je n'ai pas peur. Et je vis et je vivrai de plus en plus libre de toute peur. Alors comment faire pour être libre de toute peur? Réorientez votre foi. Romains 10, 17. Or la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Comment réorienter votre foi? Écoutez ce que vous dit Jésus. Écoutez ce que vous dit Christ. Écoutez ce que vous dit sa parole. Plutôt que d'entendre, d'écouter ou même de produire des scénarios catastrophes, entendez ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est que oui, il y aura tous ces troubles, et il annonce même que certains seraient tués, détruits à cause de leur foi. Mais il dit aussi, heureux serez-vous. Il dit aussi, vous avez cette bienheureuse et glorieuse espérance. Donc la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Un instant, juste vous rappeler que ce que vous entendez influence et nourrit votre foi, même si ce n'est pas la parole de Christ. Et là, je rejoins et je remercie Sophie pour l'exhortation de tout à l'heure en disant, oui, c'est important d'être informé et c'est bon de savoir ce qui se passe, mais sachons doser et nous détacher un moment de tout cela. Parce qu'à force de regarder, d'entendre, etc., vous êtes en train de nourrir quelque part quelque chose de foi en vous, dans le risque et la force de ces événements et de cette menace qui pèse sur tout le monde. Donc oui, informez-vous, mais ensuite revenez et venez à la parole de Christ. Vous savez, moi, ce que j'ai fait, ce que sur ce début d'année par rapport à ce que nous avons partagé, et que ce soit même par rapport aux événements cette semaine, je me suis tenu informé, c'est vrai. Mais ensuite, je suis venu et j'ai dit, « Seigneur, toi, qu'est-ce que tu dis ?» Et l'une des choses qu'il dit, c'est « Ne crains pas ». L'une des choses qu'il dit, « Je viens bientôt. » Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc, réorienter votre foi se fait en écoutant ce que Christ dit, ce qu'il vous dit dans sa parole écrite. Vous savez, les exemples seraient nombreux, je ne veux pas être trop long, mais à un moment, Jésus était dans la barque avec ses disciples. Une grande tempête s'est levée. Et les disciples ont peur de mourir. Ils vont réveiller Jésus, disant, « Maître, sauve-nous, nous périssons !» Jésus va leur dire, « Mais homme de peu de foi !» Ils avaient juste besoin de foi. Et ils auraient pu eux-mêmes gérer la situation. Ou au moins, dans la situation, rester tranquille. Vous savez, il y a des circonstances que nous devons gérer, j'allais dire, et parfois qu'on va, pour lesquelles on va agir, comme Jésus l'a fait en se levant et en menaçant la tempête et les vents. Et si toutefois nous ne devions pas gérer la situation, parce qu'il y a des choses qui seront incontournables, surtout dans les temps dans lesquels nous venons, l'Écriture est claire. Donc vos prières, vos jeûnes et tout cela n'empêcheront pas le plan de Dieu de s'accomplir. Donc soyons sages, soyons très intelligents. Mais, s'il y a des choses que nous ne pouvons pas modifier ou écarter, ayons la foi pour être en paix en plein milieu de ces tempêtes. Jésus dormait tranquillement dans la tempête. Donc si la tempête ne part pas, au moins, vivons-le avec le courage, avec la force, avec la capacité d'aller jusqu'au bout. Jésus lui-même, en tant qu'homme, a certes prié brièvement, « Père, si tu pouvais éloigner cette coupe. » Mais il s'est rapidement ajusté en entendant la parole de son Père, en disant, « Mais tu sais bien qu'on ne peut pas faire autrement, Jésus. Tu sais bien que c'est pour ça que je t'ai envoyé. Il faut que le sang innocent coule. » Non, je n'étais pas dans le jardin. Mais j'imagine la discussion du Père à son Fils. Et Jésus de se rajuster en disant, « Père, ta volonté. » Et il a bien compris que cette coupe ne s'éloignerait pas. Et alors, devant faire face à cette coupe, mais la coupe n'était juste qu'un détail, à tous les coups qu'il a pris, faire face à la crucifixion, la pire des morts possibles, Jésus a traversé tous ces moments avec une dignité incomparable. Quand bien même l'un de ses fidèles disciples a voulu le défendre à la manière des hommes, Jésus, en coupant l'oreille d'un des gardes, Jésus va recoller l'oreille. Non, non, c'est pas comme ça qu'on travaille. Je sais pourquoi je suis là et j'y vais dignement, tranquillement. Il avait une paix, une assurance, une tranquillité. Il a souffert, mais il est allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pourquoi ? La foi. La foi, qui peut-être n'a pas changé les circonstances parce qu'elles ne devaient pas changer. Et certaines circonstances qui sont devant nous ne changeront pas. Donc écoutons la voix de Dieu et vivons dans la foi pour vivre au milieu de ces circonstances avec assurance, avec paix, comme un signe au sein de cette génération. Les gens diront, mais pourquoi vous êtes tranquille comme ça, vous ? Pourquoi tu n'as pas peur ? Quand tout le monde a peur, quand tout le monde court, tu diras, je vis libre de toute peur parce que Jésus est venu me libérer de la loi du péché et de la mort. Je suis libre de toute peur parce que tout cela qui effraie tout le monde, certes, ça ne m'amuse pas, ça ne me rassure pas en tant qu'être humain. Certes, ça m'interpelle, ça me blesse même, comme j'ai pu vous en faire part tout à l'heure dans ma réflexion. Mais je n'ai pas peur, je suis en paix, parce que tout cela me fait savoir que mon Seigneur revient très bientôt. Donc la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. La parole de Dieu nourrit notre espérance. Comme j'ai dit avant, même si sur certains événements elle peut nous effrayer, si vous lisez l'Apocalypse, et ça arrivera, mais en même temps, elle nous parle de l'espérance glorieuse, d'être éternellement avec lui. Elle nous parle de la nouvelle Jérusalem. Elle nous parle avant cela d'un temps de millénium où nous régnerons avec lui. Et encore avant cela de cet enlèvement que j'attends tant maintenant. Waouh, mais quel beau jour ! Quel beau jour ! Vous savez, des hommes sont capables de se dépasser, de dépasser des souffrances terribles parce qu'ils ont vu quelque chose. Un athlète est capable de courir avec un tendon déchiré sur plusieurs mètres parce qu'il a en vue l'arrivée. Et c'est quand il s'arrête qu'il a mal et qu'il ne peut même plus marcher. Waouh ! Il a quelque chose en vue, il a une espérance. Des sportifs ou des gens qui sont en train de vivre une expérience physique peuvent braver tous les dangers, tout ce qui est possible et imaginable, en escalade ou autre, parce qu'ils ont une espérance, c'est d'arriver au sommet et d'avoir une vue comme personne n'a eu ou comme on ne peut pas avoir depuis un autre point sur la terre. Combien sont prêts à tous les sacrifices et à toute la souffrance parce qu'ils ont en vue d'obtenir un diplôme? Parce qu'ils ont en vue de vivre telle ou telle expérience. Nous avons une espérance magnifique, merveilleuse, inqualifiable. Lisez la parole de Dieu. Nourrissez votre foi de l'espérance qui est la nôtre pour pouvoir tout surmonter. Job 3, 25 à 26. Job 3, 25 à 26. Il y a une déclaration ici remarquable, mais qu'il ne faudra absolument pas prendre pour une fatalité, mais qui nous enseigne. Job 3, 25. « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » C'est marrant, ça. Enfin, c'est marrant, c'est pas marrant. C'est remarquable. « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Alors qu'ailleurs, je lis que ce que tu dis arrive, si tu crois dans ton cœur. Je lis ailleurs que ce que tu demanderas au Père au nom de Jésus, tu le recevras. Donc, ce en quoi j'ai foi m'arrive, et ce dont j'ai peur m'arrive. Encore une fois, on voit bien que la peur est une forme de foi, simplement mal orientée. Donc, ce dont vous avez peur, ce dont vous développez une foi, va vous arriver. Parce que, au même titre que la foi en la parole de Dieu, en la promesse de Dieu, attire la puissance et la promesse de Dieu, votre foi dans le danger attire le danger vers vous. Et peut-être même que vous n'étiez pas sur la liste, mais par votre peur, vous vous inscrivez vous-même sur la liste. Ce dont vous avez peur, ce que vous redoutez, c'est ça à quoi vous pensez, c'est même ce que vous dites quelquefois. Et c'est ce que vous attirez vers vous. Vous nourrissez quelque chose. Il y a une puissance, vous prophétisez vous-même. Donc, réorientez votre foi. Parlez ce que Dieu parle. Et peut-être même si vous avez l'émotion de peur en vous, n'exprimez pas l'émotion de peur, exprimez la réponse, la foi, la parole de votre maître sur cette situation. Peut-être dans votre cœur, vous dites « j'ai peur de faire un accident ». Mais avec votre bouche, dites « je suis en sécurité, l'Éternel gardera mon départ et mon arrivée ». Changez, réorientez votre foi. Peut-être qu'en prenant les transports en commun, on peut avoir peur qu'on pose une bombe là-dedans. Mais avec votre bouche, dites « je suis en sécurité. L'Éternel est avec moi partout où j'irai. Chaque lieu que foule mon pied, il me le donne. » Et dites plutôt, et croyez que parce que je suis là, ce tram-là ne peut pas exploser parce que je suis là. plutôt que de vous dire « est-ce que... » Non, parce que vous êtes là, vous faites la différence. Réorientez votre foi. Ésaïe 41:10, parce que la peur, comme on l'a vu dans Job, si vous la nourrissez, si vous la déclarez, vous ouvrez une porte à des choses qui sont le contraire de ce que vous voulez. Donc, réorientez votre foi, croyez, confessez ce que vous savez être juste et que vous voulez vivre. Ésaïe 41:10. Vous savez, moi, je ne me pose même plus la question, quelquefois, mais et si ça ne fonctionnait pas? Ou bien, et si telle chose ne se faisait pas? Ou bien, et si je n'y arrivais pas? Je ne me pose plus ce genre de questions. Bien sûr, elles existent quelque part dans mes émotions. Je suis humain, je suis limité. Mais j'ai banni ces choses-là de mon langage. J'ai dit, j'y arriverai. Et quand j'y serai arrivé, voilà ce que je ferai. Et même si une fois j'échoue, je dis pas, mais si finalement j'y arrive jamais, je dis, je recommence et j'y arriverai. Et quand j'y serai, on continuera sur autre chose. Ésaïe 41:10, ne crains rien, te dit l'Éternel, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voilà une parole de promesse. Voilà une parole, Dieu est avec toi. Il te soutient. Ne crains pas, ne promène pas des regards inquiets. Jésus, à un autre moment, a envoyé ses disciples traverser le lac avec leur barque. Et puis, lui, il est venu marchant sur les eaux. Ils ont eu peur. Sa réponse est, ne crains pas, c'est moi. Jésus te dit, ne crains pas, je suis là. Jésus te dit, ne crains pas, j'arrive. Quand tu vois tout ce qui se passe, n'aie pas peur, j'arrive. Peut-être vous êtes seul quelque part et la peur s'empare de vous. Il te dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, je te soutiendrai de ma droite triomphante. 2 Timothée 1, verset 7. Il est écrit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Dieu vous a donné son esprit, le Saint-Esprit, qui vous remplit de force, de courage, d'audace, d'amour et de sagesse. Et quand il dit ici, ce n'est pas un esprit de timidité, il n'est pas question de l'esprit, l'Esprit Saint, même si indirectement c'est le cas, mais il nous parle de notre manière de penser, notre mentalité. Et je ne vous ai pas donné une mentalité de timidité. Vous n'êtes pas fait pour être des gens timides, bloqués, limités. Mais mon Saint-Esprit vous remplit de force, d'amour, de sagesse. Fortifie-toi et prends courage, dit l'Écriture à Josué si souvent. Fortifie-toi et bon courage. La peur est un sentiment, donc elle se situe dans notre âme. Quand on a peur, on est déstabilisé. Mais si ce n'est qu'un sentiment, ça veut dire que nous pouvons le maîtriser, parce que notre esprit, notre nature spirituelle est supérieure à notre âme, à nos émotions, et nous devons assujettir ces choses-là. Romains, chapitre 8, verset 15. J'en ai quasiment terminé pour aujourd'hui. Romains 8, verset 15. Il est écrit, vous n'avez point reçu encore un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. C'est-à-dire, vous n'avez plus être esclave de la peur. Mais vous avez reçu le Saint-Esprit, esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. Vous avez un esprit qui vous permet d'appeler Dieu votre Père. Et quel Père? Vous savez, parfois quand quelqu'un, les enfants, ils peuvent avoir une histoire entre eux. Et quand l'un des deux dit, moi je vais le dire à papa. Le deuxième commence à être un peu moins sûr de lui. Et vous savez, parfois même à la maison avec les enfants, quand un des deux dit « je vais le dire à papa », le deuxième pleure déjà. Et non pas que je sois terrible ou le sujet de leur effroi, mais parce que papa, ça représente quelque chose. Il y a une autorité, il y a une force, il y a quelque chose qui est là. Et par l'Esprit de Dieu, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Quand les circonstances nous tournent autour, quand peut-être des ennemis nous effrayent, quand peut-être même le malin veut s'amuser avec nous, pour dire, moi, je vais le dire à mon papa. J'ai un papa. Dieu est mon Père. Le Créateur des cieux et de la terre. Le Tout-Puissant. Celui à qui rien ni personne ne peut résister est mon papa, mon Père. Donc je n'ai pas un esprit de peur, de crainte, mais j'ai un Père qui me protège, qui prend soin de moi, qui est fort, puissant. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Plus encore, il est ressuscité et il a la droite de Dieu, il intercède pour nous. De quoi avoir peur? Dieu a tué, s'il faut le dire comme ça, son propre fils. Il ne l'a pas fait pour rien. Il est dit, s'il a tué son fils, comment ne vous donnerait-il pas tout avec lui? Dieu a tué, Dieu a donné son propre fils pour avoir le droit de nous donner toutes choses. Vous n'avez plus à avoir peur de quoi que ce soit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et ce n'est même pas si, c'est puisque Dieu est pour nous. Parce que Christ est mort et ressuscité pour toi. Quand tu l'as reçu, tu es mort et ressuscité avec lui. Il est pour toi. Quand tu te mets de son côté, il est avec toi, il est de ton côté. Qui serait contre toi? Non pas que personne ne s'élèverait pour être contre toi, mais malheur à quiconque s'amuserait à ces choses. Malheur. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Ce dont il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis de boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie. Ça veut dire que, n'aimez pas avoir peur de la mort, même si je devais mourir, même la mort ne me sépare pas de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni ce qui vient, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu peux vivre libre de toute peur, parce que rien ne peut te séparer de son amour. Rien du tout. Rien. Réorientons notre foi. Rappelons-nous quand même la chose la plus terrible, la plus effrayante qui puisse se présenter. Et si bien même elle devait nous atteindre, qu'il puisse nous atteindre. Même là, je n'ai pas peur, parce que même pas ça ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Peut-être que quelque chose peut me séparer de mon corps. Avant l'heure, je voudrais que ce ne soit pas le cas parce que je veux vivre ce temps glorieux de l'enlèvement. Mais si quelque chose me séparait de mon corps, même cela, je n'en ai pas peur. Et vous savez que notre assurance et le fait que nous n'ayons pas peur mettra en déroute un bon nombre de ceux qui viendront avant l'heure. Il est dit plusieurs fois que les gens voulaient se saisir de Jésus, mais ils n'ont même pas réussi parce que ce n'était pas encore son heure. Et vous savez, l'une des manières de résister à l'ennemi qui pourrait vouloir se saisir de nous alors qu'il n'est pas encore l'heure, c'est le fait que nous n'ayons absolument pas peur. Et quand quelqu'un sera là avec quelle que soit l'arme qu'il peut utiliser, peut-être que notre corps va trembler parce que notre corps reste notre corps. Mais si j'ai l'assurance, si mon regard, qui est le reflet de mon être intérieur, qui est fortifié en Christ, est assuré, et que j'aurai la droit dans les yeux, et je lui dis, je n'ai pas peur. Parce que ni la mort ne me séparerait de mon Seigneur. Je ne serais pas étonné que certains ennemis fuiraient à cause de cela, si ce n'est pas encore l'heure. Et si c'est l'heure, je mourrai, mais je ne mourrai pas dans la peur, je mourrai dans la foi, je mourrai dans l'assurance, je mourrai dans la gloire. Étienne est mort martyr, mais il vit les cieux ouverts. Il est mort avec une espérance. Son corps était meurtri, en train de souffrir, il avait mal. Ses émotions, j'étais pas là, mais je suis sûr qu'il était déçu, qu'il souffrait, qu'il était triste à la mort, disons-le. Mais à un moment, les cieux s'ouvraient, il dit, je vois, les cieux s'ouvraient. Ça a encore plus énervé les autres. C'était sa victoire, l'assurant jusqu'au bout de son corps. Il n'a pas dit, mince, mais pourquoi? Et si après tout, j'avais cru en vain? Non, non, il avait les yeux vers le ciel et Dieu lui fit la grâce, il ouvrit les cieux et il vit. Il est mort en héros, il est mort avec foi, il est mort avec l'assurance. Si je dois mourir, je serai mort en héros. Qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, que peut me faire un homme? Tu peux m'enlever la vie, c'est vrai. Tu peux m'enlever mon corps. Ok, mais tu ne peux pas m'enlever mon espérance. Tu ne peux pas m'enlever mon salut éternel. Réorientez votre foi. On a parlé ici de la peur, bien sûr, de la mort et de tout ce qui peut se présenter, mais même devant des enjeux qui sont devant vous, vous pouvez vivre libre de toute peur. Si quelqu'un est esclave de la peur, elle réalise, mais c'est vrai, en fait, j'ai jamais donné ma vie à Christ, je suis pas né de nouveau. L'étape nécessaire, c'est naître de nouveau. Et c'est aujourd'hui le bon moment. Tu peux donner ta vie à Christ. Renoncer au péché, à la mort qui opère en toi et à la vaine manière de vivre et te tourner vers la solution de Dieu en Jésus-Christ. C'est le bon moment. Et si vous êtes croyant, vous êtes né de nouveau, mais vous subissez encore beaucoup la peur, eh bien, recevez la révélation simplement et l'éclairage. Revêtez-vous de l'homme nouveau, celui que vous êtes vraiment en Christ. Réalisez que la peur n'est pas particulièrement un grand ennemi. La peur, c'est juste une foi mal orientée. Donc, réorientez votre foi sur la parole de Dieu, sur sa promesse, sur sa vie, sur son amour, sur sa puissance. Et vous n'avez rien à craindre. Hébreux 10, je conclue avec ce verset. Hébreux 10, 35. N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Et peut-être juste encore aujourd'hui, nous qui vivons ces temps que vit notre pays de France, que vit l'Europe, n'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Rappelez-vous que votre assurance, votre confiance, votre foi, n'est pas basée sur le système de notre pays ou de notre monde. J'ai un profond respect et je prie pour nos autorités, mais ma confiance ne repose pas sur les autorités de notre pays. C'est pourquoi l'Écriture dit « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Quand bien même les fondements de cette terre seraient ébranlés, notre assurance, elle, ne le sera jamais. Dieu ne connaît pas la crise, si je puis dire. L'Éternel n'est ébranlé, n'est dépassé, n'est secoué par rien. Au contraire, il a déjà tout anticipé. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, juste un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Là encore, le Seigneur nous dit encore, j'arrive. Et mon juste vivra par la foi. Mais, il y a quand même une mise en garde, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ailleurs, Jésus disait que si nous écoutons ses paroles et les pratiquons, nous ferons sa joie, nous rendrons sa joie parfaite. Bien sûr, vous n'allez pas perdre complètement votre héritage, mais vous ne faites pas la joie, le plaisir de votre Seigneur si vous abandonnez. Et pire que cela, verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Là, il parle carrément de ceux qui se détournent complètement, qui abandonnent tout, en disant après tout, la foi là, ça ne fait rien, et qui vont complètement se perdre. Ne soyons pas de ceux-là, mais soyons de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Pour sauver leur âme. Mon juste vivra par la foi. Donc, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. La récompense vient. Vous pouvez et vous allez. Et dès aujourd'hui, je crois et je déclare, vous êtes libre de toute peur. Et je le dis pour moi, et vous pouvez en faire autant, je suis libre de toute peur. Libre de toute peur. Et je retiens mon assurance jusqu'à la rémunération, à la gloire de mon maître. Amen.